Matthieu chapitre 26 versets 40 et 41. Puis il vint vers ses disciples et les trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation. Car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Bonjour à tous frères et sœurs et bon sabbat, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, puisse Dieu nous accorder son Saint-Esprit en ce moment d'enregistrement et de méditation. C'est ma prière, vraiment, surtout à la lumière des paroles du Seigneur Jésus lorsqu'il venait aux disciples dans le jardin de Gethsémané et qu'il n'avait pu veiller, comme il disait, une heure avec lui, il s'était endormi. Et il dit à Pierre, « Veillez et priez de peur que vous ne tombiez dans la tentation. » Car, disait Jésus encore aujourd'hui à nous, « Car l'esprit est prompt, disposé, prêt, mais la chair est faible. » L'esprit est prompt. Mais la chair est faible, disait Jésus. J'ai intitulé notre méditation d'aujourd'hui par ces paroles suivantes, renforcer nos points faibles. Renforcer nos points faibles. Vraiment que puisse Dieu vraiment diriger cette méditation ici, c'est ma prière. Pour que nous puissions arriver à comprendre nos points faibles, afin que nous puissions devenir forts là où nous sommes peut-être aujourd'hui. Et nous avons été faibles. C'est ma prière. Donc, frères et sœurs, notre méditation aujourd'hui, elle gravite autour de la pensée qui est contenue dans la déclaration suivante, qui va donc nous servir d'introduction pour cette méditation présente, qui se trouve dans Foyer chrétien, à la page 90 et au paragraphe 3. Jour après jour, vous pouvez apprendre à mieux vous connaître vous-même. Jour après jour, vous pouvez mieux apprendre à corriger les points faibles de votre caractère. Le Seigneur Jésus sera votre lumière, votre force, votre couronne de joie, parce que vous abandonnez votre volonté à la sienne. Le Seigneur Jésus sera notre lumière, notre force, notre couronne de joie, lorsque nous abandonnons notre volonté à la sienne, afin de quoi ? Afin de, jour après jour, apprendre à mieux nous connaître nous-mêmes, afin que, jour après jour, nous puissions mieux apprendre à corriger les points faibles de notre caractère. Le Seigneur désire nous assister dans cette œuvre-là consistant à apprendre à nous connaître mieux nous-mêmes. Pourquoi ? Afin de pouvoir, par sa grâce et avec son secours et son soutien et sa force, arriver à corriger, remédier ces points faibles dans notre caractère. Vous voyez un peu ? Nous avons des points faibles et le Seigneur désire nous aider non seulement à les comprendre, mais à les corriger. Vous voyez ?
Et il nous promet, ici par le témoignage de l'esprit de prophétie, il nous promet de nous aider dans ce processus qui est inséparable de l'activité du jugement investigatif, ou encore on pourrait dire du grand jour des expiations qui constitue à purifier non pas simplement le sanctuaire dans le ciel, mais les péchés que nous faisons monter dans le sanctuaire céleste et que nous avons inscrits dans le sanctuaire céleste. Parce que, comme une étude le faisait remarquer, le sanctuaire du ciel, c'est un peu le grand quartier général de l'Internet de l'univers. Et donc, tout ce qui est su et connu de nous est inscrit là-haut. Mais pour que ce soit le ciel puisse être purifié de ces choses-là, il faut d'abord que nous-mêmes nous en soyons purifiés, d'où donc cette activité d'apprendre à nous connaître nous-mêmes pour pouvoir corriger ces défauts de caractère qui sont rien d'autre que des péchés. Mais ici, il est question de points faibles dans notre caractère pour que nous arrivions à comprendre qu'il s'agit de faiblesses où il nous faut devenir forts. Vous voyez ce contraste. Et donc, aujourd'hui, c'est ce que nous voulons arriver à discerner, cette activité, pour pouvoir la mettre en œuvre, la mettre en pratique dans nos vies, à savoir tant celle de apprendre à nous connaître que celle de pouvoir corriger ces choses qui nous ont été révélées par l'étude de nous-mêmes. Et l'étude de nous-mêmes à la lumière des principes et des révélations de la parole de Dieu, qui nous révèlent le caractère de Dieu et mettent en lumière, par contraste, notre obscurité, la justice de Dieu, le péché qui nous est propre. Et donc, il est écrit, jour après jour, vous pouvez mieux apprendre à corriger, ou littéralement en anglais, à renforcer les points faibles de votre caractère, d'où donc notre intitulé aujourd'hui renforcer nos points faibles. Les corriger, c'est renforcer les points de notre caractère où nous sommes faibles. C'est comme cela que nous les corrigerons, c'est en exerçant une plus grande vigilance dans ces domaines de qui nous sommes. Et c'est comme cela que nous pouvons corriger nos faiblesses et remédier à nos habitudes pécheresses. Vous voyez un peu. Et nous pouvons donc, frères et sœurs, et nous voulons apprendre comment corriger ou renforcer les points faibles de notre caractère. Mais alors, quels sont les points faibles de notre caractère? Eh bien, vous voyez, ce sont un peu comme les fissures dans le mur qui mettent en danger toute l'intégrité du bâtiment. Ces fissures, elles nous font comprendre que le bâtiment a un problème, le bâtiment glisse. De même aussi, les points faibles de notre caractère, en ce qu'ils se manifestent à nos propres yeux, sans parler d'aux yeux des autres, eh bien, ils mettent en lumière le manque d'intégrité du bâtiment, que le bâtiment glisse, que le bâtiment a une brèche, un problème de structure, un problème structurel. Ces points faibles dans notre caractère, ce sont, pour ainsi dire, les brèches dans la muraille qui laissent entrer l'ennemi sans résistance ou sans combat. Vous comprenez? De la même manière, spirituellement parlant, ces points faibles, ce sont les brèches dans notre caractère où l'ennemi entre et ne rencontre pas de résistance, pas de combat. Pourquoi? Parce que ce sont nos faiblesses où le péché a libre cours. Parce que si ce n'était pas ainsi, ce ne serait pas une faiblesse. Parce que si le péché ne peut pas rentrer, eh bien c'est bel et bien une forteresse contre l'avancée du péché dans nos vies. Et si c'est une brèche, alors c'est une faiblesse, comme une brèche est une faiblesse dans une muraille. Parce que elle anéantit toute l'utilité de l'action protectrice de ce mur. Vous voyez ? Et il devrait aussi, et il en est aussi de même pour notre caractère. Tout ce qui, dans notre caractère, permet au péché de croître et de s'immiscer et de s'établir est une faiblesse pour laquelle il nous faut obtenir une guérison, une faiblesse qu'il nous faut guérir, qu'il nous faut renforcer, qu'il nous faut corriger. Autrement, nous ne pouvons être sauvés. Bah oui, parce que si la muraille reste sans cesse ouverte, et bien s'il n'y a rien qui est fait pour cela, eh bien au bout d'un moment, même si la muraille reste, ne serait-ce que cette brèche reste intacte, eh bien au fil du temps, c'est toute l'armée ennemie qui rentre. Et tout ce qui est à l'intérieur est brûlé, mis à sac. Comme l'histoire des royaumes et des invasions et des sièges du passé nous l'apprend. Et donc, telles sont les parties de notre caractère que nous devons apprendre à corriger et à renforcer. Mais alors, frères et sœurs, pour apprendre à corriger et renforcer nos points faibles, il nous faut tout d'abord les comprendre. Parce qu'on ne peut pas essayer et tenter de remédier à des problèmes que l'on n'a même pas d'abord compris, que l'on n'a même pas d'abord saisi, dont on n'a même pas vraiment ressenti les amères conséquences. Et donc j'aimerais lire cette déclaration suivante qui se trouve dans le foyer chrétien à la page 315 et au paragraphe 1er, où il est écrit ceci. À mesure que l'histoire de ce monde approchera de son terme, Satan agira avec toute sa puissance de la même manière et avec des séductions semblables à celles qu'il utilisa pour tenter l'ancien Israël juste avant son entrée dans la terre promise. Il tendra des pièges à ceux qui prétendent garder les commandements de Dieu et qui sont sur le point d'atteindre la Canaan céleste. Il leur tendra des pièges à ceux qui sont sur le point d'entrer dans la Canaan céleste et qui prétendent garder les commandements de Dieu. Il déploiera tous ses efforts pour attirer les âmes dans ses filets et les attaquer sur leurs points faibles. Et attaquer sur leurs points faibles ceux qui se disent enfants de Dieu. Vous voyez ? Quel est son effort ? Il déploiera tous ses efforts pour attirer les âmes dans ses filets et attaquer sur leurs points faibles ceux qui se disent enfants de Dieu. Satan est résolu à écraser par ses tentations et à souiller par la sensualité l'âme de ceux qui n'ont pas soumis leur passion aux facultés supérieures de leur être, qui ont permis à leur esprit de s'abandonner à leurs désirs charnels et à leurs penchants les plus bas. Il, Satan, ne vise pas spécialement des objectifs de moindre importance, mais il tend ses filets par ceux qu'il peut engager comme ses agents pour séduire les hommes et les entraîner à prendre des libertés condamnées par la loi de Dieu. C'est contre les hommes qui occupent des postes de responsabilité, qui enseignent les exigences de la loi de Dieu et dont la bouche est pleine d'arguments pour la défendre, défendre la loi de Dieu, que Satan engage une telle campagne. c'est contre eux qu'il exerce son pouvoir diabolique et qu'il met en œuvre ses moyens pour les vaincre sur les points faibles de leur caractère, car il sait bien que celui qui viole un seul commandement se rend coupable envers toute la loi, ainsi il peut avoir la main mise sur l'homme tout entier. Vous voyez, il entre dans la brèche, et ensuite il peut contrôler tout le fort ou, pour ainsi dire, l'homme tout entier. Avoir la main sur la main mise sur l'homme tout entier. Alors qu'est-ce que fait-il? Nous lisions. Il est résolu à écraser par ses tentations et à souiller par la sensualité l'âme de ceux qui n'ont pas soumis leur passion aux facultés supérieures de leur être. Qu'est-ce qui va constituer une grande partie de nos points faibles? C'est là où l'âme n'a pas soumis les passions, ses passions aux facultés supérieures de l'être et a permis à son esprit de s'abandonner à ses désirs charnels et à ses penchants les plus bas. Il utilisera cela pour faire chuter et décrédibiliser la foi de ceux qui prétendent être les faux, les enfants de Dieu. Et ici, j'aimerais que nous lisions quelque chose qui arrive, qui nous permet de caractériser, de définir quel est l'un des grands points sur lesquels il cherchera à affaiblir le peuple de Dieu en ces derniers jours, alors que l'histoire de ce monde touche presque à son terme. Je lis ici dans le Foyer chrétien, encore une fois, la page 315 et au paragraphe 2, où il est écrit ceci. La condition actuelle du monde m'a été dépeinte sous de bien sombres couleurs. L'immoralité règne partout. La licence est le péché particulier à notre époque. La licence, dit-elle, est le péché particulier à notre époque. Si c'était vrai du temps de Sir White, combien plus est-ce vrai de nos jours? Mais qu'est-ce que la licence? Eh bien, la licence, vous voyez, c'est le droit qu'on se donne de porter les choses à l'excès. Le droit qu'on se donne de violer la loi, de vivre sans loi. La licence, c'est de faire un peu ce que l'on veut. La licence, c'est de suivre ses passions sans restreinte, sans contrainte, sans contrôle par les facultés supérieures de l'être qui a été illuminé et instruit par l'Esprit de Dieu. La licence, c'est ne pas être contrôlé par la raison, mais être contrôlé par les passions charnelles, ce que nous avions lu juste avant, les penchants les plus bas du corps, de l'être. De qui disait, la licence est le péché particulier à notre époque. Jamais le vice ne s'est affiché avec une telle insolence. Une certaine torpeur envahit le monde et ceux qui aiment la vertu et la bonté sont presque découragés en constatant que l'iniquité se généralise à notre époque, qu'elle s'étale et qu'elle s'enhardit. Hein, Jésus disait dans Matthieu chapitre 24, il me semble, que parce que l'iniquité sera multipliée, l'amour de plusieurs se refroidira. Et donc, parce que l'iniquité s'est multipliée et s'est généralisée à notre époque, qu'elle s'étale et qu'elle s'enhardit, l'amour de plusieurs se refroidit et ils sont en proie à s'adonner au péché particulier de notre époque, plus encore que de celle de Sir White, qui est la licence, à savoir l'immoralité, le libre cours aux passions de la chair. Et ceci ouvre et agrandit les brèches des points faibles du caractère. Parce que Jésus disait, rappelez-vous, l'esprit est prompt, c'est-à-dire les nobles facultés de l'âme dans lesquelles l'esprit réside et contrôle, est prompt. Hein? L'apôtre Paul disait, faire ce qui est bon, faire ce qui est bien, c'est en moi. Mais il y a quelque chose d'autre en moi qui veut faire le mal. Et donc, nous voyons cela donc à travers cette licence, ce péché particulier de l'époque à laquelle nous sommes en proie de tomber. Et je lis. Et pas seulement chez les incroyants et les moqueurs, si encore c'était le cas, mais au contraire, beaucoup de soi-disant chrétiens sont coupables. Même ceux qui prétendent espérer en la venue de Christ n'y sont pas plus préparés que Satan lui-même. Ils ne se purifient pas de toute souillure. Ils se sont tellement adonnés à la débauche que leurs pensées sont naturellement impures et leur imagination corrompue. Il est tout aussi impossible à leur esprit de s'arrêter sur des sujets purs et saints que d'essayer de détourner les eaux du Niagara et de leur faire remonter les chutes. Tout chrétien ou vrai chrétien devra apprendre à réfréner ses passions et à être contrôlé par de sûrs principes. Autrement, il n'est pas digne du nom de chrétien. Ouh, qu'est-ce que c'est? Il est tout aussi impossible à leur esprit, hein, l'esprit de ceux qui prétendent être les enfants de Dieu mais qui se laissent contrôler par leur passion, il est tout aussi impossible à leur esprit de s'arrêter sur des sujets purs et saints que d'essayer de détourner les eaux du Niagara et de leur faire remonter les chutes. C'est à ce point impossible. Pour qui? Pour l'homme qui s'est laissé contrôler par ses passions. Parce que au fur et à mesure que nous nous laissons contrôler par nos passions, eh bien, nos passions obtiennent le dessus sur notre raison, de telle sorte que les passions deviennent le maître de l'homme plutôt que la raison, le maître des passions et le maître du corps tout entier. Vous comprenez? Donc, vous voyez un peu la nécessité de pouvoir arriver à discerner l'importance de la maîtrise des passions de la chair pour identifier nos points faibles individuels. Parce que nous avons tous des points faibles particuliers et propres à nous-mêmes qui ne sont jamais, très rarement, les mêmes chez l'autre. Donc chacun a des points faibles différents, seulement nous avons tous la même réalité qui était définie et expliquée par les paroles brèves de Jésus lorsqu'il disait « L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Il parlait aux disciples, il disait « Votre esprit est prompt, vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous êtes des hommes convertis. » Ils avaient été régénérés d'une certaine manière, dans une certaine mesure, mais régénérés tout de même. Et donc il disait « L'esprit est prompt », comme c'est marqué dans Éphésiens chapitre 2. Au début, quand nous étions dans le monde, des enfants de colère et de désobéissance, nous obéissions de passer au... Allons-y brièvement, hein, parce que c'est important. Éphésiens chapitre 2, il me semble. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Parmi lesquels nous vivions tous autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais lorsque Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus à la vie ensemble en Christ et nous a ressuscités ensemble, alors nous avons une autre activité dans notre esprit, c'est celle de l'homme nouveau, de Jésus-Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ceci est une autre activité par laquelle Jésus dit que l'esprit est prompt à faire ce qui est bon, seulement la chair reste présente, à savoir la chair de péché, et cette chair est et sera toujours faible. Et donc, si nous ne réalisons pas cette leçon ici que Jésus disait, et donnait aux disciples, et leur transmettait pour nous aussi, eh bien nous serons sans cesse en proie à être renversés par cette faiblesse de la chair qui toutefois a une certaine force en ce qu'elle est, elle est forte pour faire le mal, pour commettre le péché, mais elle est faible pour faire le bien, pour commettre la justice. Et c'est d'ailleurs parce qu'elle était si faible, cette chair, que Jésus a dû être incarné dans la chair de péché afin qu'il puisse condamner le péché dans la chair, pour que nous qui sommes dans cette chair aussi puissions vivre à la justice à travers cette justice accomplie par Dieu en Jésus-Christ. Et par la foi, nous pouvons donc obtenir une victoire, mais nous avons d'abord besoin, c'est tout l'objectif de cette leçon, de cette méditation, besoin de discerner les points faibles de notre caractère qui sont régis par notre nature, qui est cette chair qui est si faible. Vous voyez ? C'est pour ça que Jésus disait « Veillez et priez, parce que votre chair, elle n'a pas changé. » Vous comprenez? Parce que des fois, on peut se dire, mais j'ai une telle expérience, mon Seigneur, j'ai, vraiment, je suis un peu au-delà de cela. Nous disons cela en parenthèse, parce que nous disons, mais Seigneur, mon expérience. Jésus dit, veille et prie. Ton expérience, ça ne veut rien dire. Ta chair, elle est tout aussi faible. Et donc, voilà quelques éléments ici dans les citations que je vais lire par la suite qui nous permettent de trouver, d'identifier et également de corriger nos points faibles. Je lis cette première déclaration qui se trouve dans Child Guidance à la page 165 et au paragraphe 4 et 5. Dieu attend de nous que nous bâtissions nos caractères selon le modèle qui nous est proposé. Nous devons poser une brique après l'autre, ajoutant une grâce à une autre, trouvant nos points faibles et les corrigeant conformément aux instructions données. Lorsqu'une fissure apparaît dans les murs d'un château, nous savons que quelque chose ne va pas dans le bâtiment. Dans la construction de notre caractère, on voit souvent des fissures. Si ces défauts ne sont pas corrigés, la maison s'écroulera lorsque la tempête de l'épreuve viendra s'abattre sur elle. Dieu nous donne la force, les facultés de raisonnement et le temps pour que nous puissions construire des caractères sur lesquels il puisse apposer son sceau d'approbation. Il, Dieu, désire que chacun de ses enfants se construise un caractère noble, comment ? Par l'accomplissement d'actes purs et nobles, afin de présenter à la fin une structure symétrique, un beau temple honoré par les hommes et par Dieu. Donc vous voyez, notre Dieu nous donne la force, les facultés de raisonnement et le temps pour que nous-mêmes nous puissions forger et construire des caractères sur lesquels il pourra apposer son sceau et son approbation. Il dira, ce caractère est conforme au modèle qui est Jésus-Christ. Parce que nous lisons dans la parole de Dieu que c'est lui qui nous a été donné comme exemple afin que nous suivions ses traces. Il me semble que c'est dans 2 Pierre. N'est-ce pas? Donc Jésus est le modèle. Dieu nous donne la force, les facultés de raisonnement et le temps pour que nous puissions construire des caractères selon ce modèle-là et qu'il puisse ensuite venir je crois que c'est examinateur des travaux finis, quelque chose comme ça, pour dire, voilà, pour examiner le travail, la construction et dire, j'approuve. Et comment peut-il approuver? Seulement si nous construisons un caractère semblable à celui du modèle. Comme il avait dit à Moïse, voilà, tu feras le sanctuaire comme ci, comme ça, et Moïse a construit le sanctuaire dans le désert, exactement selon les instructions qui lui avaient été données. Et nous aussi, il nous faut construire, bâtir un caractère selon les principes principes du caractère de Dieu qui nous sont présentés dans la Bible et dans l'exemple de Jésus pour qu'ensuite Dieu puisse dire, voilà, j'approuve. Il nous donne du temps, il nous donne des matériaux et il nous donne les conditions pour pouvoir bâtir ce caractère comme on pourrait construire une maison. Il nous faut avoir un fondement. Il n'y a pas d'autre fondement que Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et ensuite, dès que nous avons coulé les fondations, eh bien, ensuite, on peut commencer à ériger les murs avec des blocs, des briques. Pour cela, on prépare du ciment et tout cela se fait avec l'activité du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est comme cela que l'on bâtit, à la lumière des révélations de la parole de Dieu. Je lis la citation qui suit dans Christ Triumphant à la page 89 et au paragraphe 3. Et voyez comment ici, à travers cette déclaration, nous arrivons à percevoir et à comprendre comment ces points faibles surgissent et comment nous arrivons à les discerner. Je lis. Dieu amène souvent les personnes dans une situation de crise pour leur montrer leur propre faiblesse et les orienter vers la source de la force. S'ils prient et veillent dans la prière en luttant courageusement, leurs points faibles deviendront leurs points forts. L'expérience de Jacob renferme de nombreuses et précieuses leçons à notre intention. Dieu a appris à Jacob que par ses propres forces, il ne pourrait jamais remporter la victoire et qu'il devait lutter avec Dieu pour obtenir la force d'en haut. Donc Jacob a eu dans sa propre expérience cette leçon que Dieu lui a donnée. Quelle était-elle? Qu'il ne pourrait jamais remporter la victoire par ses propres forces, mais qu'il devait lutter avec Dieu pour obtenir la force d'en haut. Et comment lutta-t-il? Comment Jacob lutta-t-il dans son expérience? Il lutta en agonisant avec Dieu dans la prière, alors qu'il avait le sentiment que Dieu le condamnait. Parce que vous vous souvenez, il était à côté de ce guet de Jabok, il me semble, alors qu'il était seul et il se sentait terriblement abandonné de Dieu, et ensuite quelqu'un lui taper sur l'épaule, quelque chose comme ça, et il crut que c'était un ennemi, mais en fait il était en train de combattre Dieu. Et le Seigneur, parce que c'était Jésus-Christ, lui donna cette impression. Et Dieu, parfois, nous donne aussi l'impression qu'il est contre nous, parce qu'il nous révèle qui nous sommes. Mais ce que nous sommes n'est pas beau à voir. Et donc, nous avons l'impression que nous sommes face à un ennemi, mais Jacob a appris qu'il devait lutter avec Dieu dans la prière, agoniser, continuer malgré les impressions, malgré les sentiments, malgré les passions. Et nous aussi, c'est une leçon qu'il nous faut tirer, afin que nous puissions, comme lui, obtenir la force d'en haut. Obtenir comment? Obtenir en suivant non pas nos impressions, non pas nos sentiments, non pas nos émotions, mais nos convictions intelligentes nées de l'illumination des révélations de Dieu dans sa parole et dans l'esprit de prophétie. Vous voyez? Jacob a eu une telle expérience, mais il nous faut, nous aussi, faire maintenant une expérience telle que Jacob a eue et telle que les disciples ont pu forger à travers leur cheminement, notamment à travers les années du ministère de Jésus et passant par sa mort, sa crucifixion et ensuite sortant du tunnel de leur incrédulité après la résurrection. Alors, ils ont commencé à tirer des leçons de leurs expériences passées, mais sinon, avant, c'était un processus. Eh bien, lorsque nous sommes dans le processus, c'est là qu'il nous faut apprendre à voir Dieu dans l'obscurité, à croire à la parole de Dieu, dans l'incertitude et dans le doute. Vous voyez? Et donc si nous faisons ce que Jésus nous a dit, hein, nous sommes toujours en train de parler des points faibles, mais tout est englobé dans l'étude de nos points faibles et l'effort que nous déployons pour les corriger, les renforcer. Tout est impliqué parce que c'est l'homme tout entier que Dieu révèle à nous, l'homme ou la femme que nous sommes. Et donc c'est toute notre vie qui se présente à nous. C'est toute une question existentielle qui nous est présentée. Et dans cette question existentielle, il y a ce fameux événement de Jésus dans le jardin de Gethsémané, où il disait, voilà, veillez, priez, pour que vous ne tombiez pas dans la tentation, parce que l'esprit est prompt, mais la chair est faible. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Et donc, si nous prions, si nous veillons dans la prière en luttant courageusement, ainsi, je paraphrase, nos points faibles deviendront nos points forts. Parce que si nous surveillons ces brèches, attentivement ces brèches qui sont nos points faibles, de la même manière que des brèches dans une muraille sont le point faible d'une ville fortifiée, si nous surveillons ces points faibles avec grande vigilance, eh bien ces points faibles vont devenir nos points forts, de la même manière que ces brèches deviendraient le point fort d'une armée assiégée s'ils y dirigeaient leurs efforts pour repousser l'ennemi. Comprenez cette image? C'est d'ailleurs une image que l'auteur John Bunyan il avait présentée dans un de ses livres dont je ne me souviens plus exactement le titre, où il assimilait l'homme à une citadelle et à une ville fortifiée, et les ouvertures de cette citadelle c'était les portes de l'âme, comme les yeux, les oreilles, la bouche, et les cinq sens, quoi. Donc c'est une belle illustration, mais l'illustration est belle, mais à un certain moment donné, il nous faut être confronté à la réalité de l'illustration. Et la réalité de l'illustration, c'est la licence, l'immoralité, toutes ces choses, et le libre cours à nos passions charnelles et à nos penchants les plus bas. Ce sont qui constitue nos points faibles. Et d'autres choses aussi qu'il nous faut d'ailleurs considérer pour voir où est-ce que nous avons des brèches. Parce que c'est important de vraiment prendre le temps de voir et de demander, si nous n'avons pas déjà obtenu une réponse personnelle, de demander à Dieu, Seigneur, c'est où? Où est mon point faible? Où mon caractère, il est clairement en dissonance avec ton caractère. Parfois, nous le savons. Parfois, nous marchons pendant des années sachant quel est le problème. Mais c'est une question... C'est un problème d'avalanche qui continue, jusqu'à ce que nous arrivions, comme l'esprit de prophétie nous disait, à une situation de crise, où la faiblesse est arrivée à un tel point culminant que nous réalisons, « Oh Seigneur, il faut que je obtienne la victoire maintenant. » Et là, nous réalisons d'autant plus, parce que c'est devenu une crise de faiblesse de caractère, qu'il nous faut exercer d'autant plus de force. Voyez. Mais nous ne sommes pas contraints d'arriver à ce moment de crise, car si nous prenons le temps et nous veillons et prions pour à la fois apprendre à nous connaître mieux-mêmes, à nous connaître nous-mêmes, et ayant discerné nos points faibles pour apprendre à les corriger, à les renforcer, eh bien alors nous pouvons couper l'herbe à la racine, pour ainsi dire. Venir tôt à bout de nos faiblesses. Je vais lire la citation suivante ici, dans Christ Triumphant, à la page 198 et paragraphe 3. 198, paragraphe 3, Christ Triumphant, où il est écrit ceci. Satan offre à tous les royaumes de ce monde en échange de leur exécution de sa volonté. C'est la grande incitation qu'il présenta à Christ dans le désert de la tentation. De la même manière, il dit aux disciples de Christ, Si vous suivez mes méthodes en affaires, je vous récompenserai par des richesses. Chaque chrétien est un jour ou l'autre mis à l'épreuve, ce qui révèle les faiblesses de son caractère. S'il résiste à la tentation, il remporte de précieuses victoires. Si nous résistons à la tentation, alors nous remportons de précieuses victoires sur quoi ? Sur les faiblesses potentielles ou déjà existantes de notre caractère. Vous voyez ici, donc la tentation est directement liée à nos faiblesses, soit potentielles, soit déjà développées dans notre caractère. La tentation va soit intensifier nos faiblesses, soit nous donner l'opportunité de les corriger et de renforcer nos points faibles. Vous voyez ? D'où donc la nécessité d'où donc l'importance de ces paroles de Jésus lorsqu'il disait « Veillez et priez afin que vous ne succombiez pas à la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Et donc, si nous veillons et prions, eh bien, nous nous mettons dans une capacité à surmonter nos faiblesses par la grâce de Dieu. Vous voyez, parce que dans cette activité de veiller et de prier, nous sommes en étroite relation et coopération avec le Dieu qui nous a révélé que notre chair est faible. Vous voyez ? Mais si, dans la faiblesse, nous nous laissons aller, nous disons, ça fait déjà tellement de fois que j'ai été vaincu sur ce point-là, on va se laisser vaincre encore une fois, eh bien, nous accentuons, nous augmentons notre faiblesse. Alors que si, face à la tentation, nous disons, Seigneur, c'est mon opportunité, c'est mon occasion pour faire ce qui est juste, et là, nous disons, Seigneur, aide-moi, nous veillons, nous prions. Au lieu de dormir, comme les disciples le faisaient. Lorsque Jésus priait, les disciples dormaient. Et donc, lorsque Jésus intercède en notre faveur, nous voulons intercéder en notre propre faveur. Vous voyez ? C'est ça que Jésus voulait pour les disciples. Il voulait qu'ils prient non seulement pour lui, mais pour eux-mêmes. Parce qu'il savait que si lui, il était tenté, combien plus eux, ils seraient tentés, et combien plus eux, à plus forte raison, tomberaient dans le péché. Et en effet, c'était le cas. Mais Jésus, compatissant, leur dit, et nous dit, « Veillez et priez. » afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Mais donc, c'est là que nous lisions, en lien avec cela, chaque chrétien est un jour ou l'autre mis à l'épreuve, ce qui et par quoi les faiblesses de son caractère sont révélées. À travers cette mise à l'épreuve, les faiblesses de notre caractère sont révélées. À travers la tentation. Mais s'il résiste à la tentation, il remporte de précieuses victoires. De précieuses victoires sur quoi ? Sur les faiblesses de son caractère. Vous voyez ? En résistant à la tentation, nous remportons pas simplement des victoires, mais des victoires parce que nous avons lu que le diable, en ces derniers jours, alors que l'histoire de ce monde touche à sa fin, se concentre non pas sur les moindres objectifs, mais sur les faiblesses, sur les brèches de notre caractère, eh bien nous savons que nous serons donc tentés, à plus forte raison que sur tous les autres points, sur nos points faibles. Et donc si nous résistons à la tentation qui vient à nous, dans tous les sens, mais tout particulièrement avec une plus grande intensité sur nos points faibles, alors nous deviendrons forts là où nous sommes faibles. Vous comprenez, comme nous l'avions lu juste avant. Et nous répondrons à cet appel de Jésus à veiller dans la prière pour obtenir la victoire telle qu'il l'a obtenue, afin que nous puissions aussi nous asseoir avec lui sur son trône. Parce qu'il disait dans Apocalypse chapitre 3, vous voyez comment cela est lié, le vainqueur, n'est-ce pas ? Le vainqueur. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Si nous vainquons comme Jésus a vaincu, nous nous asseyrons là où Jésus est assis, ou sur le trône de la divinité. Sur le trône de la divinité, mais cette divinité, nous y participons d'ores et déjà si nous coopérons avec Dieu, comme nous pouvons le voir dans 1 Pierre, je crois. Allons-y voir. Il me semble que c'est 1 Pierre ou 2 Pierre. Nous allons le trouver brièvement. Dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 2 à 4. « La grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquels nous ont été donnés les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens, vous soyez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. » Donc, à travers ces promesses de la parole de Dieu, hein, qui nous sont données par la connaissance de Christ, celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, à travers cette connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus qui nous est donnée à travers la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, nous pouvons et nous devenons participants de la nature divine, d'ores et déjà, tandis et à mesure que nous fuyons la corruption qui règne dans le monde par la convoitise, nous avions vu cette licence et cette immoralité qui règne partout dans le monde, à mesure que nous fuyons cette corruption qui règne dans le monde par la convoitise, et que nous veillons et prions afin de résister, de ne pas tomber dans la tentation, nous devenons participants de la nature divine, et nous obtenons la victoire que Jésus a obtenue sur la chair, ce qui était marqué dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, c'est verset 3, mais je vais lire à partir du verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait, envoyant son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. » Vous voyez, donc Jésus a été envoyé dans une chair semblable à celle du péché, dans la chair de péché, et il a condamné le péché dans la chair, afin que nous aussi, tandis que nous marchons non selon la chair, mais selon l'esprit, nous puissions, comme lui, condamner le péché dans la chair, et que la justice de la loi de Dieu soit accomplie en nous, selon la loi de la foi. Vous voyez un peu? J'aimerais lire pour conclure, ce serait bien, la citation suivante qui se trouve dans Jésus-Christ à la page 101 et au paragraphe 2. Ça nous permettra de mettre un terme et d'arriver à une conclusion sur cette méditation. Jésus-Christ à la page 101 et au paragraphe 2. C'est au moment de sa plus grande faiblesse que Christ fut assailli par les tentations les plus terribles. Satan s'imaginait vaincre ainsi. Cette méthode lui avait réussi auparavant. des hommes qui avaient combattu vaillamment et pendant longtemps pour le bien s'étaient trouvés vaincus quand leur force avait subi une défaillance, quand leur volonté s'était affaiblie, quand leur foi avait cessé de se reposer sur Dieu. Moïse, là de 40 années, c'est-à-dire fatigué de 40 années de vie errante avec Israël, sentit sa foi chanceler. Il commit une faute au seuil de la terre promise. Tel fut aussi le cas d'Élie. Il resta ferme devant le roi Achab et fit face à toute la nation d'Israël, conduite par les 450 prophètes de Baal. À la fin de la terrible journée passée sur le Carmel, le mont Carmel, le peuple promit d'obéir à Dieu et les faux prophètes furent exterminés. Ce même soir, cependant, Élie s'enfuit devant les menaces de Jézabel, afin de mettre sa vie en sûreté. C'est ainsi que Satan a toujours profité des faiblesses de l'humanité et il continue d'agir de la même manière. Dès qu'un homme est entouré de nuages, plongé dans la perplexité par les circonstances ou affligé par la pauvreté ou le malheur, Satan est tout prêt à renouveler ses tentations. Il cherche les points faibles de notre caractère. Il s'efforce d'ébranler notre confiance en Dieu qui tolère un tel état de choses. Nous sommes tentés de perdre confiance en Dieu, de mettre en doute son amour. Souvent, le tentateur se présente à nous comme il se présenta à Christ, rangeant devant nous en ordre de bataille nos faiblesses et nos infirmités. Il espère par là décourager l'âme et nous faire lâcher prise. Alors, il est sûr de sa proie. Mais si nous voulons lui résister, comme l'a fait Jésus, nous échapperons à plus d'une défaite. En discutant avec l'ennemi, nous lui donnons l'avantage. Donc vous avez vu, de la même manière qu'il tente les hommes faibles, c'est comme cela qu'il tenta Jésus lorsqu'il était au moment de sa plus grande faiblesse. C'est à ce moment-là qu'il fut assailli par les tentations les plus terribles. Vous comprenez ? Lorsque nous sommes au moment de nos plus grandes faiblesses, c'est à ces moments-là que le diable nous assaille de ses tentations les plus terribles. Et Dieu permet qu'il en soit ainsi afin que nous puissions obtenir la même victoire que Christ a obtenue. Comment ? Par la foi en Christ et de Jésus. Rappelez-vous ce qui est marqué dans Apocalypse chapitre 14 verset 12, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et cette foi de Jésus, c'est celle qui lui permit d'obtenir la victoire sur les tentations que Satan lui assenait en ce moment de sa plus grande faiblesse. Vous voyez un peu ? De la même manière, nous voyons l'exemple de Moïse, l'exemple d'Élie et de nombreux autres qui, quoi qu'ils avaient marché haut et droit pour Dieu, avaient manifesté un tel zèle pour Dieu, dans leur moment de faiblesse, c'est précisément à ce moment-là que le diable les emporta et les fit chuter. Et donc nous avons un encouragement, si cela nous est déjà arrivé, et également un encouragement pour comprendre que la justice et le caractère et la victoire que Jésus a opérée dans sa vie, c'est cette victoire et cette justice et ce caractère que nous pouvons aussi avoir dans notre vie. Parce que Jésus a été fait péché pour nous, a été incarné dans la même chair de péché que nous. Et c'est en cela que nous avons l'espérance d'obtenir sur le péché et la tentation la même victoire que lui. Voilà, frères et sœurs, je prie que cela soit un encouragement pour nous tous qui sommes assaillis par les tentations, pour que nous croyions en Dieu, qu'il y a bel et bien une issue à nos faiblesses. Et ce sont les points forts que Jésus a manifestés et a véritablement mis en pratique dans sa vie. Puissions-nous, nous aussi, frères et sœurs, nous saisir de ces assurances de la parole de Dieu que nous pouvons, si nous mettons notre volonté dans cela, obtenir la victoire et résister à la tentation et renforcer ainsi et corriger nos points faibles. Nous ne sommes pas condamnés à cette fatalité d'être toujours aussi faibles, d'avoir ces grandes fissures et ces grandes brèches. Puisse Dieu nous aider, comme Néhémie le faisait de manière illustrative, à réparer les brèches. Réparer les brèches, non seulement dans le message, mais réparer les brèches dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, et à laisser Jésus guérir le passé. C'est ma prière que Dieu vous bénisse et nous bénisse et nous fortifie dans ce sens-là. Je prie au nom de Jésus. Amen.